Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre studio de Chartres où nous avons le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Luc Berkmans parmi nous. Il est maître de conférences de civilisation de littérature néerlandaise à la Sorbonne et également rattaché au Centre d'études supérieures de la Renaissance à l'Université François Rabelais de Tours. Et là-bas, il est chercheur dans ce domaine de la Renaissance et il nous fait la grande amitié et le grand honneur de venir nous parler aujourd'hui du retable de Gand et de l'agneau mystique. Bonjour Monsieur Berkmans.
Bonjour.
Nous sommes dans notre émission qui est consacrée à l'art et à l'histoire et à ce titre, nous sommes particulièrement heureux de découvrir avec vous des aspects spirituels liés à la mystique bien particulière des Flamands. On est déjà à votre écoute. Donc parlez-nous un peu de ce retable dit bien connu, cet agneau mystique qui est entouré de 8 groupes de personnages bien distincts.
Voilà. Donc ce retable se trouve à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, hein, cette ville magnifique. Lorsqu'on entre dans l'église, hein, donc on découvre ce secret et ce trésor de la peinture flamande réalisé par les frères Van Eyck. Donc on parle toujours des frères puisqu'il s'agit de Hubert et Jan Van Eyck. L'histoire de Hubert est un petit peu mystérieuse, on ne le connaît pas très bien. Donc c'est lui qui aurait reçu commande de ce retable. Et après sa mort, c'est son frère Jan qui a terminé le travail. Alors il y a tout un débat entre historiens d'art, quel est l'apport exact de Hubert et de Jan. Et on ne va pas trancher cette question aujourd'hui. Et donc je vais surtout vous parler de Jan et le considérer comme le grand peintre de ce retable. Alors aujourd'hui, lorsqu'on voit l'original de cette œuvre, il se trouve dans une partie de l'église qui fait chapelle et le retable se trouve derrière une vitre. Ça veut dire aussi qu'on est obligé de marcher autour. Et on n'a plus cet effet qu'on avait à l'origine de l'ouverture et la fermeture du retable. C'est un petit peu dommage parce que c'est un élément important au niveau de la signification de cette œuvre extraordinaire. Bon, situons tout d'abord le thème. Hein, donc il s'agit de l'agneau mystique ou l'adoration de l'agneau mystique. Il s'agit d'un thème apocalyptique. Ce qui est représenté sur le retable ouvert, notamment la zone du bas, c'est un autel sur lequel se trouve l'agneau, qui est en fait très petit. Mais là, nous voyons déjà la maîtrise de notre peintre qui arrive à faire voyager le regard et puis le diriger directement vers l'essentiel. C'est cet agneau qui se trouve au centre, qui symbolise évidemment le Christ, l'immolation du Christ, puisque on voit comment l'agneau verse son sang. Donc ça, c'est le thème principal. Mais il y a tant de choses à voir sur ce retable et qui s'inscrit dans la tradition des miniatures, du miniaturisme, de l'enluminure. Il est très important de se rendre compte de la carrière de Jan Van Eyck, et notamment de son passage dans des ateliers d'enlumineurs. On suppose qu'il a travaillé avec les frères du Limbourg, les frères Mal-Bal, comme on les appelait, Mal comme Mal non allemand, peindre, et Bal signifie bien, ceux qui peignaient bien. Alors ces frères du Limbourg, les frères Mal-Bal, ont réalisé notamment une partie des très riches heures du duc de Berry, un magnifique manuscrit illustré qui se trouve à Chantilly. Alors, lorsqu'on se rend compte de l'importance de la miniature, on comprend mieux l'adoration de l'agneau mystique à Gand. Et donc, effectivement, ce qui frappe immédiatement lorsqu'on voit ce tableau, ce sont les innombrables détails et puis le perfectionnisme avec lequel ces détails ont été réalisés. Il faut savoir qu'à l'époque, Jan van Eyck était considéré comme le plus grand peintre du siècle. Sa réputation était également faite en dehors des frontières de la Flandre et des Pays-Bas. Donc il était connu comme le plus grand également en Italie. On disait de lui qu'il était l'inventeur de la peinture à l'huile. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, donc il n'est pas l'inventeur, mais c'est certes celui qui a perfectionné cette technique et qui a ainsi obtenu des effets très spéciaux, et notamment cet effet de luminosité de l'ensemble du tableau. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de regarder les panneaux extérieurs que je vais décrire. Alors pourquoi ? Eh bien justement, parce qu'à l'époque, pendant la semaine, donc les dévots qui entraient dans l'église ne voyaient que cette partie-là. Et ce qui est typique de l'art des primitifs, c'est qu'on ne révèle pas tout à la fois. Il faut être patient. Et c'est ça aussi la beauté de ces panneaux extérieurs qui représentent tout en haut des prophètes et des sibylles, c'est-à-dire des personnages qui ont annoncé le Christ. Et tout est dans ce thème de l'annonciation. Au milieu, nous voyons effectivement la scène de l'annonciation lorsque l'ange Gabriel arrive dans cette pièce très simple où se tient la Vierge Marie. Donc là encore, on annonce l'arrivée du Sauveur. Et le Sauveur, nous le verrons en ouvrant le retable. Ce sera le grand personnage du haut, vêtu du manteau rouge. Je reste pour le moment encore avec les panneaux extérieurs. Et nous voyons les donateurs. Donateurs, comme le mot le dit, hein, ce sont ceux qui vont donner, qui vont offrir le retable à l'Église. Et à l'époque, ce n'était pas encore la cathédrale Saint-Bavon, c'était l'église Saint-Jean. C'est la raison pour laquelle nous voyons les donateurs entre deux statues. Il y a les deux statues qui se trouvent entre Jos Veit, le donateur, et sa femme, Elisabeth Borlut. Donc Saint-Jean le Baptiste, d'une part, et Saint-Jean l'apôtre. Donc c'est l'importance des deux Saint-Jean. Les donateurs se trouvent dans une attitude de prière, de dévotion. Donc on voit qu'ils sont agenouillés. Et ils ont l'air grave. Donc ils sont en prière, en méditation, une prière intense. Donc l'ensemble de ces panneaux extérieurs montre en fait ce que devrait ressentir un spectateur, ou je dirais plutôt un dévot, qui s'approche du secret divin. Donc il faut qu'il se mette en quelque sorte dans la position du donateur. C'est Jos Veit qui donne l'exemple. Il faut faire comme lui pour avoir le droit de voir l'intérieur du retable, hein, qui est alors comme une magnifique vision. Autre aspect assez typique des panneaux extérieurs, ce sont les couleurs atténuées. Certes, il y a aussi de la luminosité ici, mais on ne voit pas encore toutes ces couleurs étincelantes du retable ouvert. Mais les couleurs que nous voyons sont significatives. Jos Veit et sa femme Elisabeth Borlut portent des habits rouges. Et c'est surtout l'habit de Jos Veit qui est lumineux. En quelque sorte, il va donc annoncer aussi ce que nous allons voir à l'intérieur. Lui, le guide pour nous, donc porte déjà le rouge que nous reconnaîtrons en ouvrant le retable et en voyant le Christ.
Alors, si vous voulez, on peut écouter un peu de la polyphonie flamande. Vous nous avez apporté de la musique d'Ockeghem.
Très volontiers.
Qui nous plongera un peu dans cette ambiance mystique de cette époque.
Voilà, nous ouvrons le retable et nous avons écouté cette belle musique. C'est la polyphonie pour laquelle la Flandre était également connue à l'époque. Et la musique est présente dans le retable de Gand. Sur les panneaux extérieurs, on voit notamment deux panneaux avec les anges musiciens. D'une part, le chœur des anges et ce qui est très surprenant, et ce qui montre encore la maîtrise de Jan van Eyck, ce sont les expressions de ces anges, et donc on semble voir qui chante les notes aiguës et les notes graves. De l'autre côté, vous avez les anges musiciens, avec plusieurs instruments de musique de l'époque. Donc ce tableau est également... Donc un objet très très important, une source importante pour les historiens, et notamment les historiens de la musique. Alors nous sommes au XVe siècle, le retable de l'agneau mystique sera installé à l'église en 1432. C'est à l'époque ce que nous appelons dans l'histoire de nos régions, c'est ce qu'on appelle l'époque bourguignonne, les Duc de Bourgogne sont un maître chez nous. Les ducs de Bourgogne qui se comportent comme de véritables mécènes qui font travailler les artistes. Pensons, pour ce qui est de Jan van Eyck, aussi au le tableau avec le chancelier Rollin devant la Vierge d'Autun qui se trouve au Louvre. Donc chancelier Rollin, chancelier du duc de Bourgogne. Jan van Eyck a travaillé à la cour. Donc, il a commencé sa carrière avec Jean de Bavière aux Pays-Bas, à La Haye, et puis est devenu valet de chambre et peintre de Philippe le Bon. Et nous savons aussi qu'il a travaillé à Dijon. Donc, il connaissait bien la cour, toute cette vie, cette richesse. Et ça, nous le constatons immédiatement en regardant les détails du retable ouvert. Ce qui frappe, c'est effectivement cette richesse, richesse des habits, des bijoux, les pierres précieuses que l'on trouve partout. Alors le personnage le plus impressionnant, le plus imposant, est évidemment le Christ, qui se trouve tout en haut, habillé de rouge et portant la tiare. Il est là comme le pontife de l'Église universelle. Mais il y a quelque chose de curieux. On pense voir le Fils, mais en même temps le Père. Et cette ambiguïté, certainement voulue par le peintre, renvoie aussi à ce que nous trouvons dans l'Apocalypse, puisque l'essentiel des symboles se trouve dans l'Apocalypse. dans l'Apocalypse, il est question du Christ qui a la chevelure blanche, qui a la barbe blanche, le symbole de son éternité. Donc il y a donc ici aussi une sorte d'ambiguïté voulue. On voit le Père et le Fils. À chaque côté du Christ, nous voyons donc deux personnages. Donc, d'une part, la Vierge Marie. Nous l'avons déjà vue sur les panneaux extérieurs. Mais sur les panneaux extérieurs, elle était vêtue très très simplement. Ici, c'est devenu une reine. Donc elle porte un magnifique manteau bleu, une couronne sertie de pierres précieuses, de perles et aussi de fleurs. Et de l'autre côté, nous voyons de nouveau Saint Jean le Baptiste. Nous l'avons vu sous forme de statue sur les panneaux extérieurs. Ici, nous le voyons en personne. Alors curieusement, il porte à la fois la robe hirsute qu'il portait en tant que prédicateur au désert et ce magnifique manteau de cour vert. Ainsi, nous avons trois couleurs complémentaires, le bleu de la robe de Marie, le rouge du manteau du Christ et le vert du manteau de Saint Jean. Nous voyons donc également les deux panneaux avec les anges musiciens, et puis tout à gauche et à droite, les personnages d'Adam et Ève. Toute la partie inférieure du retable représente le paradis. Et c'est là que nous voyons le génie de Van Eyck. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, il est un miniaturiste extrêmement talentueux. Il nous montre tous les détails. Des botanistes se sont intéressés à cette scène et sont arrivés à déterminer au moins une trentaine de plantes et de fleurs. Donc, Jan van Eyck travaille avec une minutie scientifique. Et c'est important de le souligner parce que généralement, on fait commencer cet intérêt pour la nature, par l'observation plus tard, donc au XVIe siècle. Mais Jan van Eyck a déjà cette attitude scientifique, mais il ne la sépare pas du sens spirituel des choses. Tout ce que nous voyons, cette nature étincelante, luxuriante, est aussi porteuse de symboles. Donc au milieu, nous voyons l'agneau mystique sur l'autel. L'autel qui est rouge, c'est le rouge du sang versé. Autour de l'agneau, il y a les anges qui portent les instruments de la passion. Mais tout est sublimé. Évidemment, on pense à l'immolation du Christ, mais on ne voit pas vraiment une crucifixion. Donc on voit l'agneau. Arrivent ensuite dans ce magnifique paysage paradisiaque ces différents groupes de personnages, chacun avec son propre caractère. Jan van Eyck est capable de donner une individualité à chacun de ces personnages. Et puis, dans les lointains, nous voyons apparaître une ville. C'est la Jérusalem céleste, avec plein de tours, tours d'églises, de cathédrales. Il y a ceux qui ont essayé d'identifier ces tours, mais on doit supposer que Jan van Eyck a connu, étudié cette architecture, mais a quand même imaginé cette ville. Donc nous avons le magnifique grand parc, le paradis derrière lequel s'érigent ces tours. Au premier plan, vous avez la présence du groupe dit pré-messianique. Donc à gauche, on voit effectivement arriver des personnages qui appartiennent à l'Antiquité. On reconnaît aussi des sages juifs. On reconnaît des prophètes surtout. Donc ce sont ceux qui ont mérité leur place dans le paradis par leur vie vertueuse, mais aussi par ce qu'ils ont annoncé. par leur prophétie. À droite se trouvent également au premier plan les apôtres et derrière eux les papes. Alors il faut savoir, donc, nous sommes au 15e siècle, c'est la période des papes et des antipapes, les papes d'Avignon. Eh bien donc il y a ceux qui pensent pouvoir identifier donc les papes et les antipapes. Donc ils sont tous ensemble dans ce paradis. Et c'est très significatif pour l'esprit de ce tableau, pour cette œuvre qui évoque surtout l'unité. Donc l'unité de la communauté des élus, l'unité de la création. Au fond, toujours sur ce même panneau central, nous voyons encore arriver un groupe d'ecclésiastiques. C'est le haut clergé qui arrive. Et à droite, un groupe avec les vierges. Ce sont les vierges martyrs, mais qui semblent comme exécuter une danse. Donc elles sont très gracieuses. Et c'est là où nous voyons encore que Jan van Eyck était un peintre qui a travaillé à la cour, qui était peut-être même régisseur de cour au moment des fêtes.
Et l'importance de la musique, donc je vous propose d'écouter à nouveau une petite pièce de Kekem. Nous sommes à Radio Grand-Ciel et Luc Berkman nous parle du retable de Gand. Il nous a décrit l'extérieur de cette magnifique pièce et il nous présente encore ici la partie centrale avec l'agneau mystique.
Oui, effectivement, donc dans le grand panneau central du bas, donc nous voyons l'agneau même entouré des différents groupes d'élus qui arrivent et qui viennent l'adorer. Sur les panneaux latéraux, il y a d'autres groupes, notamment les juges intègres et les chevaliers du Christ. De l'autre côté, nous reconnaissons les ermites et les pèlerins. Donc tout cela forme un tout. Et encore une fois, notre peintre insiste sur l'unité. Nous le constatons au niveau de la composition. L'horizon se prolonge sur toute la partie inférieure de l'image. Donc c'est une œuvre très riche en détails. Et ce qui fait l'originalité de l'agneau mystique, c'est cette façon de combiner le miniaturisme dans la tradition dans laquelle le peintre s'inscrit, avec les dimensions qui sont importantes, donc des dimensions architecturales, et aussi le fait de combiner les détails, par exemple des petites fleurs que nous voyons au premier plan, avec cette vue qui fait cheminer le regard et qui attire le regard vers les lointains bleus. Alors, il a été dit, notamment par le grand spécialiste de la peinture flamande Erwin Panofsky, donc que l'on voit ici l'harmonie entre, d'une part, la vue microscopique et la vue télescopique. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est justement cette harmonie. Donc, on ne se perd pas dans les détails en regardant le tableau. Donc on est attiré par les détails, mais ensuite notre œil glisse tout naturellement vers les lointains. Lorsque Van Eyck peint ce retable, il fait en quelque sorte ce que un philosophe théologien de l'époque, Nicolas de Cuse, fait dans la philosophie, à savoir évoquer l'harmonie aussi existant entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc ce concept théologique et philosophique nous est visualisé par Jan van Eyck. Van Eyck est un peintre avec une culture énorme. Nous savons que les peintres de l'époque se faisaient aussi conseiller par des théologiens. Et il est important de voir ce lien, important de comparer aussi texte et image. Regardons encore cette façon dont notre peintre va s'intéresser aux différents matériaux. C'était déjà chez les miniaturistes antérieurs, je pense à quelqu'un comme Jean de Bruges par exemple, un point d'intérêt, représenter le métal comme du métal, représenter le tissu comme du tissu, la chair humaine comme la chair humaine. Et donc ce même perfectionnisme, nous l'avons, c'est chez Jan van Eyck. Donc cette recherche du rendu parfait. Mais l'individualité de chaque matériau n'exclut pas l'unité. Et c'est ça ce qui est extraordinaire en regardant le tableau. Alors Jan van Eyck a travaillé pendant des années à ce tableau et il s'est tout particulièrement intéressé aux effets de la lumière. Un véritable intérêt scientifique. Lorsqu'on regarde les panneaux intérieurs, ce qui nous frappe, ce sont les rayons, mais aussi les reflets. La façon dont sont représentées les pierres précieuses avec toute leur transparence. Et on a pu constater que notre peintre savait exactement où se trouverait son retable. Dans la chapelle Veit, donc de la famille Veit, il y avait des fenêtres et la lumière pénétrait à travers ces fenêtres et tomberait sur le tableau. Donc, qu'a-t-il fait? Il a tenu compte de cette situation et lorsqu'il a peint les pierres précieuses qui se trouvent notamment sur la tiare, eh bien, donc on voit les reflets des fenêtres. Donc c'est très 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 étonnant de voir à quel point l'artiste tenait compte du lieu où se trouverait son tableau. Donc reflets, rayons, luminosité. Comment est-ce qu'il arrivait à cet effet de luminosité? Donc il y avait d'une part la technique de la peinture à l'huile qui lui permettait de faire cela, et d'autre part cette tendance à mettre à chaque fois sur le panneau en bois poncé une couche blanche, donc faite de colle animale et de craie. Puis sur cette couche blanche se superposaient différentes couches de glacis, avec donc la peinture plus ou moins dense. Alors l'effet que cela donne, c'est que au moment donc où la lumière tombe sur le tableau, donc elle traverse les glacis, est reflétée par ce fond blanc, et puis donc ressort. Donc c'est ce qui donne l'effet d'une luminosité émanant de l'intérieur, et évidemment symbolique.
Merci, cher Luc Berkman, de nous avoir présenté de façon si magistrale et si captivante le retable de Gand. Merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. À très bientôt.